Très heureux d'être avec vous ce matin encore. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous encourage par sa parole. Je vous propose d'ouvrir votre Bible et de chercher le livre aux Colossiens que l'on est en train d'étudier depuis quelque temps. Et aujourd'hui, on est arrivé dans le chapitre, à la fin du chapitre 1. On va voir aussi le début du chapitre 2. Rapidement, pour vous replacer un peu dans le contexte. Epaphras, il est le fondateur de cette église de Colosse. C'était un homme fidèle, mais malheureusement, depuis quelque temps dans l'Église, il y a une hérésie qui s'est glissée, et il est très préoccupé par cette situation. Alors, il s'est rendu jusqu'à Rome, où l'apôtre Paul est emprisonné, pour évoquer cette question avec lui. Il ouvre son cœur vraiment à toutes ces questions, et l'apôtre Paul va rédiger cette lettre aux Colossiens pour répondre à cette situation périlleuse. Il dénonce les erreurs, il cherche à rétablir la saine doctrine. Mais comme on l'a vu la dernière fois, on sait que l'apôtre Paul ne s'est jamais rendu à Colosse. Alors toute la question c'est, mais comment prêter attention à un discours, à une lettre d'un homme que l'on n'a jamais vu? Alors l'apôtre Paul va écrire dans les lignes que l'on va lire à présent, quelques éléments qu'il le présente lui-même, mais quelque part aussi pour que les gens puissent lui faire confiance, pour que les gens prennent attention à ce qu'il dit, mais aussi pour dénoncer les faux docteurs. Et donc, pourquoi devrait-il l'écouter? Je vous propose de lire les versets 24 jusqu'au chapitre 2, verset 5. Colossiens, chapitre 1, verset 24 à 2, 5. C'est Paul qui parle. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. » L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Alors, jusque-là, la parole de Dieu, mais quelles sont, au fond, les qualités les plus importantes d'un pasteur, par exemple? Quelles sont les qualités qu'il devrait posséder? J'imagine que si on laissait chacun répondre, des réponses telles que une bonne connaissance biblique, ou l'aptitude à diriger, ou la sainteté, ou l'audace, peut-être, ou encore l'art de parler en public. Mais même si toutes ces choses sont certainement essentielles, l'élément le plus important dans la vie d'un serviteur de Jésus-Christ, c'est certainement l'amour pour son Église. Personne ne peut servir l'Église sans cette motivation de l'amour pour l'Église. Comment se manifeste cet amour pour l'Église ? Voilà trois caractéristiques que l'on devrait retrouver chez un serviteur de Christ, qu'il soit pasteur, ancien, diacre, responsable d'un ministère ou disciple de Christ. Ici, je voudrais m'adresser à chacun. Nous sommes tous, si vous êtes un chrétien, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. J'en ai relevé trois dans ce passage, mais certainement qu'il y en a d'autres ailleurs qu'on pourrait mentionner. Le premier que je voudrais d'abord mentionner, c'est il doit être disposé à souffrir pour l'Église. On verra ensuite qu'il doit être centré sur Jésus-Christ et enfin qu'il soit déterminé à former des disciples de Jésus-Christ. Regardons d'abord qu'il est disposé à souffrir pour l'Église. Au verset 24, Paul nous dit qu'il se réjouit dans les souffrances qu'il endure pour l'Église, pour le corps de Christ. Il est en prison. Il souffre les conditions d'une dite détention du premier siècle, c'est-à-dire c'est loin d'un sanatorium. Tout cela à cause de sa foi, c'est une détention injuste. Tout ça pour avoir prêché le message de Jésus-Christ. Et il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Mais qu'est-ce qui manque aux souffrances de Christ? Dans le passage juste avant celui-ci, il vient de démontrer qu'il ne manque justement rien aux souffrances de Jésus-Christ. Que en ce qui concerne notre rédemption, en ce qui concerne notre réconciliation avec Dieu, en ce qui concerne notre pardon, nous avons tout pleinement, parfaitement et définitivement en Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter. Mais pour que le monde puisse entendre le message de la réconciliation, Paul est prêt à supporter toutes sortes de difficultés et de souffrances. Il dit « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Prêt à tout pour que les gens entendent le message de l'Évangile et y répondent. Et pour que l'Église aussi de Jésus-Christ puisse comprendre et accéder à une relation personnelle avec Dieu. Et bien entendu, il est prêt à souffrir également pour l'Église, pour qu'elle soit encouragée, que chaque croyant soit transformé par Jésus-Christ. Il se donne tout entier. Il dit, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous, pour vos âmes. Dans d'autres lettres, notamment en 2 Corinthiens, Paul mentionne tout ce qu'il a souffert pour l'Église, les nombreux coups qu'il a reçus. Il a même été lapidé dans ses voyages pour affermir l'Église. Il a fait plusieurs fois naufrage. Il a été attaqué par des brigands. Il a été traqué par des juifs religieux. Il a été poursuivi par des païens. Il a été en danger partout. Aucune route, aucun désert, aucune ville n'était sûre pour lui. Il a connu de nombreuses nuits blanches à travailler. Il a connu la faim, la soif, il a connu le froid. Tout ça pour son Église, pour l'Église de Jésus-Christ. Il était par-dessus tout, dit-il, extrêmement préoccupé par toutes les situations d'Église, par les souffrances de chacun, par les luttes et les combats qu'il mène. Il dit « Qui tombe que je n'ai tombe aussi ? Qui souffre que je ne souffre aussi ?» Il était compatissant, il était lié à l'Église. Il était prêt à souffrir des choses. Il dit en chapitre 2, au verset 1, « Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, c'est-à-dire pour tous. » Combien est grand ce combat? C'est-à-dire, pour toute l'Église. Pourquoi veut-il que l'Église sache cela? Mais parce que l'amour que nous avons pour une personne se mesure au sacrifice que nous sommes prêts à consentir pour cette personne, pour le bien de cette personne. Paul dit que, au fond, ses souffrances, ce sont ses lettres de recommandation. Il dit en 2 Corinthiens 6, « Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Voilà ce qu'il recommande. Voilà la preuve de son amour. Jésus se présente dans l'évangile de Jean comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je ne suis pas comme le mercenaire. Le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Moi, je donne ma vie pour mes brebis. Le mercenaire, il voit le loup venir, il prend la fuite et il abandonne les brebis. Et le bon berger, lui, il donne sa vie. Les faux prophètes, les faux docteurs ne se mettent pas en peine pour les gens. Ils recherchent leur propre intérêt. Ils ne renoncent à rien, ils ne souffrent rien pour leurs semblables. Voulez-vous servir Dieu ? Voulez-vous servir son Église ? Qu'êtes-vous prêt à supporter pour le bien de vos frères dans la foi ? Vous levez plus tôt le dimanche matin pour pouvoir accueillir vos frères, vos sœurs. Peut-être une situation, est-ce que vous êtes prêt à supporter une situation inconfortable pendant quelques semaines en Afrique pour pouvoir porter l'évangile au Djoula, un peuple non atteint? Est-ce que vous êtes prêt à supporter des gens chaque semaine dans votre salon pour accueillir une cellule? Est-ce que vous êtes prêt à supporter des critiques de personnes qui savent toujours mieux que vous, mais qui ne font pas? Êtes-vous prêt à sacrifier un peu de confort pour participer à l'offrande missionnaire tout à l'heure? On a tous des projets à faire avec notre argent. On a tous des choses qu'on aimerait acheter. Est-ce que nous sommes prêts simplement à différer ces choses-là? Ou à nous passer de ces choses-là pour que l'avancement du règne de Jésus-Christ? Si vous aspirez à devenir un responsable, si vous voulez conduire un ministère, vous allez devoir donner votre vie, votre temps, votre force, vos compétences. Et votre crédibilité sera à la mesure de ce que vous aurez supporté de souffrances et de difficultés, à la patience, à la persévérance, à l'abnégation que vous aurez eue dans votre service. À cette mesure-là, les gens seront prêts à vous écouter. Mais Paul ajoute encore une autre chose dans ce passage, au verset 24. Notamment, lorsqu'il évoque ses souffrances, il dit « Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. » C'est-à-dire qu'il n'exerce pas son ministère en râlant ou en gémissant, mais il le fait avec joie. Et l'offrande que l'on donne pour l'avancement du royaume de Dieu, les sacrifices que l'on est prêt à consentir, les souffrances que l'on accepte pour pouvoir servir nos frères et sœurs, doivent être faites dans la joie. Il accepte ses souffrances et ses afflictions qui sont liées à l'Évangile parce que l'Évangile change les vies. L'Évangile apporte la joie pour l'éternité aux personnes. L'Évangile apporte le pardon. L'Évangile, c'était une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas condamnés. La mort est vaincue. Dieu nous offre son pardon pour l'éternité. Rien ne peut faire plus de bien que l'Évangile. Rien n'est plus important. Les gens n'ont pas plus de besoin que de l'Évangile. Et l'Évangile leur procure une joie intense. Et une joie éternelle. Et c'est pour cet évangile que l'apôtre Paul est prêt à supporter toutes sortes de souffrances avec joie. Ce n'est pas en vain. Vous servez peut-être dans un ministère. Et plus vous servez dans ce ministère, et plus vous êtes amené à supporter des choses. Toutes sortes de, peut-être des remarques, peut-être des contraintes, peut-être une fatigue, peut-être des veilles. Faites-le avec joie. L'Évangile va porter du fruit dans les vies. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regardons maintenant ce deuxième point. Il devrait être centré sur Jésus-Christ. Paul évoque ça présent dans son message, dans les versets 25 à 27. Je vous refais la lecture pour vous les remettre en tête. C'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. J'aime la manière dont il présente ça, je trouve ça assez habile. Il dit, écoutez, j'ai un message extraordinaire. Celui qui m'a confié ce message, c'est Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Et puis, c'est un mystère que je vous annonce. À chaque fois, il en parle au moins 3 ou 4 fois du mot mystère. Puis il dit, ce mystère! Vous aimez les mystères? Le mystère, je vais vous le révéler. Je veux vous le révéler. Dieu veut vous le révéler. Oh. Mais avant de vous le révéler, il faut que vous sachiez que ce mystère, il était caché depuis des siècles, de tout temps. Et puis maintenant, Dieu veut vous le révéler. Il veut vous révéler la glorieuse richesse de ce mystère. Et là, les lecteurs, ils n'en peuvent plus. Mais dis-nous, qu'est-ce que c'est ce mystère? Et là, nous, on enverrait une page de pub, vous voyez. Et Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul, il a parlé comme ça de ce mystère, de tous ces secrets, parce que les faux docteurs de Colosse, ils prétendaient qu'il fallait découvrir un secret, avoir une révélation particulière et supérieure à la Bible. Quelque chose, il fallait être initié, il fallait pouvoir comprendre et accéder à la personne de Dieu. Et bien entendu, eux, ils connaissent le secret. Alors, ils peuvent le donner à qui ils veulent. Vous voyez le truc? Alors, l'Église était prête à les suivre. Vous avez remarqué comment on aime les secrets? Les secrets, ça nous valorise en fait. Moi, je sais. T'aimerais bien savoir? Tu veux que je te dise? Mais attends, hein, si je te le dis, tu le gardes pour toi. Hein. Si tout le monde le sait, c'est plus un secret, ça, je perds toute valeur. Les mystères, ça nous place juste au-dessus du lot, quoi. Ça nous permet d'être meilleur, d'être plus grand, d'être désiré. Les faux docteurs à Colosse, ils prétendaient détenir ces secrets. La franc-maçonnerie repose sur les mystères. Et plus vous entrez dans la franc-maçonnerie, plus vous passez des mystères et plus vous êtes initié, voyez. Mais vous n'avez pas le droit de le dire. Vous vous rendez compte? Si tout le monde était initié. Mais Paul, lui, il va envoyer promener tout ça. Il dit, vous voulez connaître les mystères? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire bien fort. Je vais vous le dire à tout le monde. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Paul parle d'une espérance ici, c'est pas comme moi, je vais prendre un avion ce soir, j'espère ne pas la rater, ou j'espère qu'il va pas s'écraser. Mais j'ai aucune garantie. Non, là, quand il parle d'espérance, c'est une certitude. Il dit, Christ en vous, la certitude de la gloire. C'est-à-dire, la certitude de goûter à la gloire éternelle. Le seul passeport pour le ciel, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ habite en vous, alors vous êtes pardonné. Si Christ habite en vous, vous êtes déclaré juste, vous êtes déclaré saint. Si vous êtes Christ habite en vous, alors vous êtes citoyen des cieux. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier de Christ. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous voulez connaître le secret pour une vie éternelle? C'est Christ. Vous voulez connaître le secret pour une vie heureuse ici-bas et dans l'éternité? C'est Christ. Le secret pour réussir votre mariage? C'est Christ. Le secret pour ne pas gâcher votre vie ici-bas? C'est Jésus-Christ. Christ est le message. Christ est l'objet de la prédication de l'apôtre Paul. Celui qui veut servir l'Église doit centrer son travail sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas une Église que nous prêchons. Ce n'est pas des règles que nous prêchons. Ce n'est pas une loi que nous prêchons. Nous prêchons une personne, Jésus-Christ, morte et ressuscité pour nous, pour notre salut. Enfin, la personne qui veut servir Christ doit être déterminée à former des disciples de Jésus-Christ. Et quand on a compris ce que la valeur de Jésus-Christ, on comprend aussi que Paul n'est pas d'autre message que Jésus-Christ a adressé à tout homme. Les faux docteurs disaient il faut être initié. Et de ce fait, ils divisaient l'Église. Il y avait les initiés et il y avait les non-initiés. Et Paul dit, non, ce que je veux, c'est que vous soyez unis. Et ce qui vous unit, c'est que vous possédez le même message, la même personne, Jésus-Christ. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, homme ou femme, blanc ou noir, savant ou ignorant, le seul message, que l'on puisse vous donner, c'est Jésus-Christ. J'aime vraiment cette perspective. Paul n'a pas d'autre but que de former Christ dans ses amis, ses frères et sœurs. Pour cela, il prêche, il annonce Christ, c'est son message. Il encourage tout homme, toute femme, verset 28, à se conformer à Christ, à une vie sainte. Il enseigne tout homme dans la connaissance de Christ, en toute sagesse. La sagesse, au fond, c'est la mise en pratique de l'Évangile dans notre quotidien. C'est traduire, appliquer l'Évangile dans notre vie. Tout cela dans le but de nous rendre parfaits, c'est-à-dire comme Christ. Il dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est quoi être parfait? C'est être mûr comme Christ. Bien que tous les chrétiens s'efforcent ou devraient s'efforcer de parvenir à cette maturité, à ce but, personne sur la terre n'y est encore parvenu. Mais un jour, nous serons semblables à lui. Ça, c'est le but que Dieu poursuit pour nous. Il veut nous rendre semblables à Jésus-Christ. Paul en a fait sa mission, la mission de sa vie. Il travaille avec ardeur pour cela, il le dit, avec passion, avec persévérance. Mais il ne combat pas avec sa propre force. Il combat, verset 29, avec la force de Dieu qui agit puissamment en lui. Tous nos efforts sont vains. Sans cette puissance, sans le travail du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est une vérité importante. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais accepter notre insuffisance, ça nous pousse à nous confier en la puissance de Dieu. Alors comment ça se fait ça? Comment est-ce qu'on amène tout homme, toute femme à ressembler à Jésus-Christ parfaitement? La vision de notre Église, de l'EBTM, est de faire par l'Évangile des disciples de Jésus-Christ qui célèbrent la gloire de Dieu par leur vie transformée et la joie de le servir en Église. C'est quoi faire un disciple? C'est justement cela, c'est façonner Christ dans la vie de quelqu'un. Croyez-vous que Christ soit la plus belle personne? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Si nous sommes convaincus de cela, alors nous allons vouloir former Christ par amour pour les autres. Nous allons vouloir former Christ dans chaque vie. Et nous allons utiliser chaque circonstance de vie pour former Christ. Et pour pouvoir le faire, il nous faut observer Christ dans la Bible, comprendre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et l'appliquer à notre vie et encourager nos frères à faire de même. On n'y arrive généralement pas du premier coup. Et c'est pour ça que pour faire un disciple, je crois qu'on aurait vraiment besoin de temps ensemble. Un moment où on s'assoit et on est capable de partager un petit peu nos luttes, nos difficultés, nos soucis, notre incapacité parfois à vivre cela, notre besoin d'être encouragé, d'être secouru par la prière de nos frères. Vous comprenez que si on veut que tous deviennent des disciples, et si le fait de faire des disciples, ça prend du temps, parce qu'on investit dans une vie, alors les pasteurs ne peuvent pas suffire pour ces choses. Et donc c'est le rôle de chacun ici, de servir son prochain, son frère, sa sœur, pour qu'il devienne un disciple de Jésus-Christ. Nous visons que tous, dans l'Église, soient engagés dans la relation de disciples. C'est une œuvre qui nécessite la prière pour que l'Esprit agisse puissamment en nous pour le bien des autres. C'est une œuvre aussi qui prend du temps, de l'écoute. C'est une œuvre aussi qui nécessite la parole de Dieu. Il dit dans le verset 25, « Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère, Christ !» Et donc, s'asseoir et prendre la parole et nous laisser enseigner par cette parole, voilà ce que nous devons faire. Paul, il développe là dans le début du chapitre 2, notamment avec le verset 2, il dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Nous vivons toutes sortes de situations, des joies, des afflictions, des succès mais aussi des échecs, des jours de gloire et des jours d'humiliation. Mais dans toutes ces choses, l'objectif et que Christ soit formé en nous. Le projet de Paul était que ses frères aient le cœur rempli de consolation. Le mot pour consolation ici, c'est un mot que vous avez certainement déjà entendu dans le grec, c'est parakaleo. Ça veut dire quelqu'un qui est appelé à côté, aux côtés d'eux. Et donc le mot pour consolation, c'est bien plus vaste que simplement essuyer des larmes. C'est vraiment s'approcher de la personne et la secourir. C'est soutenir cette personne, encourager cette personne. Il s'agit vraiment de partager nos vies. Dans l'Église, certains traversent le chômage, le deuil, la solitude du célibat, les conflits de famille, les difficultés matérielles. Les difficultés pour obtenir des papiers, c'est le cas de nos frères et sœurs migrants. Difficultés pour obtenir un logement, les pannes de voiture à répétition. D'autres connaissent la maladie. Dieu nous place les uns aux côtés des autres pour que nous nous apportions la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est appelé le paraclète, c'est-à-dire celui qui vient à côté d'eux, le consolateur. On a besoin de se soutenir pratiquement. Et aucun homme n'est suffisant pour cela. On a besoin d'être tous investis là-dedans. Et pour pouvoir accompagner quelqu'un dans sa souffrance ou dans ses difficultés, on a besoin de le connaître, d'établir une relation de confiance, de partager du temps. C'est là que on peut vraiment faire du bien en accueillant les gens dans nos maisons, dans les cellules, mais simplement pour un repas, un goûter, ou pour aller se balader, ou pour aller faire du sport ensemble. Mais développer des relations qui nous permettent de tisser des liens de confiance suffisamment solides que l'on puisse ouvrir nos cœurs les uns aux autres. Partager nos souffrances, partager nos difficultés, être authentiques, sincères les uns envers les autres, partager nos échecs, nos chutes, et pouvoir s'en ouvrir véritablement et d'être encouragé. C'est fort, non? C'est difficile de le faire, mais on a réellement besoin de cela. Il dit qu'ils soient unis dans l'amour. Il est prêt à tout supporter pour qu'ils soient unis dans l'amour. Laissez-moi vous poser une question. Qui a l'honnêteté ici d'admettre qu'il y a dans son cœur des racines d'amertume, qu'il existe une ou plusieurs personnes à qui il ou elle n'a pas encore pardonné? Qui souffre encore d'une parole qu'on lui a dite ou repense à un tort qu'on lui a fait? Qui est devenu indifférent? Qui a réussi à blinder son cœur pour ne plus avoir à être blessé à nouveau? On peut essayer d'étouffer de diverses manières notre rancœur. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que nous ne sommes pas libres, que nous sommes enfermés dans une prison, la prison que notre amertume a construit lui-même. Les murs que nous avons dressés les uns envers les autres pas à cause de l'amertume. Et nous pensons que la communion n'est plus possible. En tout cas, pour que la communion soit rétablie, il faudrait que la personne change. Il faudrait qu'elle reconnaisse ses torts. Il faudrait qu'elle avoue, qu'elle confesse. Il faudrait qu'elle paye d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une autre voie que celle-ci. Il y a la voie de l'Évangile. Et la voie de l'Évangile dit que de même, c'est chapitre 3, verset 13, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ, l'offensé, a payé pour nous. Lui, le juste, a payé pour toutes nos offenses. Il a payé à la croix, il a payé par sa propre vie. Et c'est cet amour-là qui nous a attirés à lui. Nous pouvons abandonner nos revendications. Aussi juste soit-elle, nous pouvons les abandonner. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a abandonné ses revendications. Il a laissé sa gloire. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il s'est fait serviteur. Il s'est humilié. Voilà comment fonctionne l'Évangile. Celui qui avait raison a accepté d'être traité comme celui qui avait tort. Par amour, pour qu'on puisse restaurer la communion. Sachant qu'il y a un juste juge qui lui connaît toutes choses. Et ce juge-là, il m'a gracié en Christ. Il a payé ma dette. Alors nous pouvons vraiment abandonner nos poursuites contre les injustices dont nous sommes victimes. Nous pouvons faire, vous connaissez la touche supre sur le clavier? Vous pouvez faire supre et envoyer tout le dossier, celui que vous gardiez là, au cas où, pour pouvoir vous en servir un de ces jours, vous pouvez prendre ce dossier-là et l'envoyer à la corbeille. Il y a un juste juge qui vous regarde. Le combat que Paul mène, il est aussi contre pour l'Église. Il veut aussi qu'elle soit enrichie d'une pleine, vous avez remarqué comment il dit, une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il y a des discours séduisants. Les discours qui nous séduisent, c'est les discours qui vont dans le sens de notre cœur naturel. Non, mais tu as raison quand même. Tu peux pas quand même passer pour celui qui a tort. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et il dit, je suis prêt à vivre cela pour vous, pour que votre intelligence soit éclairée et que vous voyez comment Jésus-Christ a fonctionné, ce qu'il a fait pour vous, la manière dont il a agi. Et il a abandonné tout cela pour que vous puissiez être pardonné. L'intelligence, elle nous conduit toujours vers Jésus-Christ. Elle nous ramène toujours à Christ. Cette année, avec le conseil, on a évoqué le fait qu'on voudrait développer la valeur d'une église qui forme des disciples, qui forme eux-mêmes des disciples. Et nous voudrions que chacun, chacune, soit engagé dans une relation avec d'autres pour faire des disciples. Si je vous posais la question, mais qu'est-ce que vous faites dans l'église? Ou si quelqu'un vous posait la question là, qu'est-ce que vous faites dans l'église? Certains certainement diraient, ah, moi, je suis au piano. Moi, je suis à la louange, je chante. Moi, je suis à la technique. Moi, je suis aux finances. C'est un autre. Moi, je fais la garderie des enfants. Moi, je fais l'apéro. Moi, je fais l'accueil. D'autres, peut-être, auraient du mal à répondre à ces choses-là parce que ils sont pas impliqués, ils ne sont pas investis dans un ministère qui est visible. Il n'y a pas un mot pour ça. On n'a pas créé un ministère de celui qui... Voilà. Mais la seule bonne réponse qu'on aimerait que chacun donne ici, ce serait « Je suis en train de faire d'un tel ou d'une telle un disciple de Jésus-Christ. J'apprends à être un disciple. » Qu'est-ce que tu fais dans l'église ? Oh, j'apprends à être un disciple de Christ avec telle autre personne. Et au fond, c'est ce qu'on aimerait, c'est que chacun puisse répondre cela. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Ah, j'investis mon temps dans cette personne. Je voudrais vraiment qu'elle connaisse Christ. Peut-être c'est une personne qui ne connaît pas, qui est de votre entourage, un collègue, un ami du sport ou je ne sais quoi, mais quelqu'un qui vous, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un à qui, voilà, vous voudriez tisser une amitié profonde, une relation, et avec lequel vous pourriez partager Jésus-Christ. À travers peut-être de la lecture d'un évangile. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont déjà impliqués dans ce travail-là. Peut-être vous dites, mais voilà, moi j'aimerais bien faire ça aussi avec un frère, une sœur de l'église. Et on se voit et on prie ensemble. Chaque semaine, on a notre petit rendez-vous et puis on s'encourage. On mène des choses, des combats, des choses difficiles, mais on n'est pas seul. On partage ces choses-là et puis... On se porte dans la prière et on s'efforce l'un et l'autre de ressembler à Jésus-Christ. Vous pouvez pas faire ça avec tout le monde. Vous pouvez faire ça qu'avec quelques personnes. Par contre, quand Paul dit qu'il veut annoncer Christ à tout homme, qu'il veut exhorter tout homme et instruire tout homme, en toute sagesse et présenté à Dieu tout homme, il n'est pas en train de dire « je vais faire ça moi tout seul, laissez-moi faire, je m'occupe de tout ». Non, il est en train de dire « chaque personne que je rencontre, chaque relation que j'établis, chaque communion que j'ai avec les gens, je veux former Christ dans ces personnes, je poursuis ce but-là dans chacune de mes relations ». Et c'est ce que nous devrions aussi poursuivre, former Christ. Alors ce matin, je voudrais vous demander de réfléchir à cela. Réfléchir et prier pour présenter à Christ et présenter Christ à un ami, un collègue, un voisin. Mais parlez d'abord à Christ de ce voisin, puis ensuite vous parlerez de Christ à ce voisin ou à cet ami. Réfléchissez. Je voudrais partager cette année, voilà, une amitié, développer. Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être vous prendre toute l'année. Ou peut-être les années à venir. Mais développer une amitié, une relation avec quelqu'un. Priez pour cette personne, pour qu'elle vienne à Jésus-Christ. Proposez, lorsque l'occasion va se présenter, de lire ou d'étudier Peut-être faites cela aussi avec un frère, une sœur de l'Église. Demandez au Seigneur de vous montrer qui. Il va le faire. Et si vous dites, ah là, ça c'est, comment faire un truc pareil? Faites-le juste naturellement. Simplement naturellement. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment ça pourrait échouer ce truc? Christ en vous, l'espérance. Qu'est-ce qui vous manque? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, mais je suis pas capable. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul, il dit, j'ai pas travaillé avec ma puissance, ma propre puissance, mais je travaille avec la puissance de Dieu, qu'il demande à Dieu. Nous sommes aussi appelés à cela. Nous, on sait pas comment faire. Seigneur, secours-moi. Tu vas laisser ton esprit. Aide-moi pour que je puisse parler à mon frère. Vous pouvez prier Dieu, lui demander son secours, puisque lui aussi vous envoie pour être ses disciples qui font des disciples de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il nous secoure pour que cette année, en Église, on puisse être une Église qui fait des disciples, qui font eux-mêmes des disciples. Prions Dieu, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que, par ta parole, tu nous encourages à être de ceux qui font des disciples de Jésus-Christ. Seigneur, on sait que pour ce faire, toi qui as souffert, tu nous appelles aussi à prendre notre croix et à te suivre. Et certainement que sur ce chemin-là, il y aura des difficultés, des afflictions, des souffrances que nous allons rencontrer. Mais nous voulons te prier que tu nous donnes la joie de nous souvenir de ce que cet évangile produit au-delà de toute mesure. Une joie intense. Le salut des âmes, la transformation des cœurs à la ressemblance de Jésus-Christ, ce qui est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter pour une personne. Et Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à investir du temps, à ouvrir nos maisons, à ouvrir nos cœurs, pour que les uns et les autres, nous soyons en communion, qu'on puisse partager nos fardeaux, nos souffrances, nos difficultés, nos chutes, nos manquements, et puis qu'on puisse trouver en toi le secours dont on a besoin pour être relevé, pour être affermi dans la foi et transformé. Seigneur, utilise chaque circonstance de nos vies, les moments de chômage, de deuil, de maladie, de difficulté, tous ces moments où on est dans l'affliction, dans l'abattement, lorsqu'on ne comprend plus, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Nous te prions pour que chacune de ces circonstances, ça serve à trouver Christ. Et à voir comment il a agi, ce qu'il a fait, quelles sont ses promesses, de sorte que nos vies soient changées à sa ressemblance. Tout cela pour la gloire de ton nom. Aide-nous à vivre dans l'unité, Seigneur, de frères et de sœurs qui se pardonnent réciproquement, qui abandonnent les blessures. Là, tu dis que l'amour couvre une multitude de péchés ou de blessures que l'on peut s'infliger les uns aux autres par nos maladresses, par notre cœur égoïste ou orgueilleux ou méchant. Et Seigneur, nous venons te demander de nous secourir et de montrer à la face de ce monde que l'évangile fonctionne au milieu de nous. Tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.